Chapitre 44 Corentin gagne la seconde manche. Le préfet motolondre toujours, dit Peyrade à l'oreille de Corentin. Il m'a découvert en nabab.
Nous ferons tomber le préfet, répondit Corentin à l'oreille de son ami.
Puis, après avoir salué froidement, il se mit à examiner sournoisement le magistrat.
Restez ici jusqu'à mon retour, je vais à la préfecture, dit Carlos. Si vous ne me voyez pas, vous pourrez vous passer votre fantaisie.
Après avoir dit ces mots à l'oreille de Peyrade, afin de ne pas en démolir le personnage aux yeux de la femme de chambre, Carlos sortit, ne se souciant pas de rester sous le regard du nouveau venu, dans lequel il reconnut une de ces natures blondes, à œil bleu, terribles à froid.
« C'est l'officier de paix que m'a envoyé le préfet, » dit Peyrade à Corentin.
« Ça, » répondit Corentin, « tu t'es laissé mettre dedans. Cet homme a 3 jeux de cartes dans ses souliers. Cela se voit à la position du pied dans le soulier. Et un officier de paix n'a pas besoin de se déguiser. »
Corentin descendit avec rapidité pour éclaircir ses soupçons. Carlos montait en fiacre.
« Eh, monsieur l'abbé !» cria Corentin.
Carlos tourna la tête, vit Corentin et monta dans son fiacre. Mais Corentin eut le temps de lui dire à la portière
« Voilà tout ce que je voulais savoir. Qu'est Malaquais ?»
cria Corentin au cocher en mettant d'infernales railleries dans son accent et dans son regard.
« Allons, se dit Jacques Collin, je suis cuit, ils y sont, il faut les gagner de vitesse. » et surtout savoir ce qu'ils nous veulent.
Corentin avait vu 5 ou 6 fois l'abbé Carlos Herrera, et le regard de cet homme ne pouvait pas s'oublier. Corentin avait reconnu d'abord la carrure des épaules, puis les boursouflures du visage et la tricherie des 3 pouces obtenus par un talon intérieur.
« Ah, mon vieux, l'on t'a fait poser !»
dit Corentin, en voyant qu'il n'y avait plus dans la chambre à coucher que Peyrade et Contenson.
« Qui ? »
s'écria Peyrade, dont l'accent eut une vibration métallique. « J'emploie mes derniers jours à le mettre sur un grill et à l'y retourner. »
« C'est l'abbé Carlos Herrera, probablement le Corentin de l'Espagne.
Tout s'explique. L'Espagnol est un débauché qui a voulu faire la fortune de ce petit jeune homme en battant monnaie avec le traversin d'une jolie fille. C'est à toi de savoir si tu veux jouter avec un abbé qui me paraît diablement roué.
Oh ! Cria Contenson. Il a reçu les 300 000 francs le jour de l'arrestation d'Esther. Il était dans le fiacre. Je me souviens de ces yeux-là, de ce front, de ces marques de petite vérole.
Ah ! Quelle dot aurais-tu, ma pauvre Lydie ! S'écria Peyrade.
Tu peux rester en nabab, dit Corentin. Pour avoir un œil chez Esther, il faut la lier avec la Val-Noble. Elle était la vraie maîtresse de Lucien de Rubempré.
On a déjà chipé plus de 500 000 francs au Nucingen, dit Contenson.
Il leur en faut encore autant, reprit Corentin. La terre de Rubempré coûte 1 million.
Papa, dit-il en frappant sur l'épaule de Peyrade, tu pourras avoir plus de 100 000 francs pour marier Lydie.
« Ne me dis pas cela, Corentin. Si ton plan manquait, je ne sais pas de quoi je serais capable. »«
Tu les auras peut-être demain. L'abbé, mon cher, est bien fin. Nous devons baiser son ergot. C'est un diable supérieur, mais je le tiens. Il est homme d'esprit, il capitulera. Tâche d'être aussi bête qu'un nabab et ne crains plus rien. »
Le soir de cette journée, où les véritables adversaires s'étaient rencontrés face à face et sur un terrain aplani, Lucien alla passer la soirée à l'hôtel de Grandlieu. La compagnie y était nombreuse. À la face de tout son salon, la duchesse garda pendant quelque temps Lucien auprès d'elle, en se montrant excellente pour lui.
« Vous êtes allé faire un petit voyage ?» lui dit-elle.
« Oui, madame la duchesse. » Ma sœur, dans le désir de faciliter mon mariage, a fait de grands sacrifices, et j'ai pu acquérir la terre de Rubempré, la recomposer en entier. Mais j'ai trouvé, dans mon avoué de Paris, un homme habile. il a su m'éviter les prétentions que les détenteurs des biens auraient élevées en sachant le nom de l'acquéreur.
Y a-t-il un château ?
Dit Clotilde en souriant trop.
Il y a quelque chose qui ressemble à un château, mais le plus sage sera de s'en servir comme de matériaux pour bâtir une maison moderne.
Les yeux de Clotilde jetaient des flammes de bonheur à travers ses sourires de contentement.
« Vous ferez ce soir un Rubert avec mon père, » lui dit-elle tout bas. « Dans 15 jours, j'espère que vous serez invité à dîner. »
« Eh bien, mon cher monsieur, » dit le duc de Grandlieu, « vous avez acheté, dit-on, la terre de Rubempré. Je vous en fais mon compliment. C'est une réponse à ceux qui vous donnaient des dettes. Nous autres, nous pouvons, comme la France ou l'Angleterre, avoir une dette publique. Mais, voyez-vous, les gens sans fortune, les commençants, ne peuvent pas se donner ce ton-là.
Eh, monsieur le duc, je dois encore 500 000 francs sur ma terre.
Eh bien, il faut épouser une fille qui vous les apporte, mais vous trouverez difficilement pour vous un parti de cette fortune dans notre faubourg, où l'on donne peu de dot aux filles.
Mais elles ont assez de leur nom, répondit Lucien.
Nous ne sommes que 3 joueurs de whisk, Maufrigneuse, d'Espard et moi, dit le duc. « Voulez-vous être notre 4e ? » dit-il à Lucien en lui montrant la table à jouer.
Clotilde vint à la table de jeu pour voir jouer son père.
« Elle veut que je prenne ça pour moi, » dit le duc en tapotant les mains de sa fille et regardant de côté Lucien qui resta sérieux.
Lucien, le partenaire de M. d'Espard, perdit 20 louis.
« Ma chère mère, » vint dire Clotilde à la duchesse, il a eu l'esprit de perdre.
À 11 heures, après quelques paroles d'amour échangées avec Mademoiselle de Grandlieu, Lucien revint, se mit au lit en pensant au triomphe complet qu'il devait obtenir dans 1 mois, car il ne doutait pas d'être accepté comme prétendu de Clotilde et marié avant le carême de 1830.
Le lendemain, à l'heure où Lucien fumait quelques cigarettes après déjeuner, en compagnie de Carlos, devenu très soucieux, on leur annonça M. de Saint-Estève, quel épigramme, qui désirait parler soit à l'abbé Carlos Herrera, soit à M. Lucien de Rubempré.
« A-t-on dit en bas que je suis parti ? » s'écria l'abbé.
« Oui, monsieur, » répondit le groom.
« Eh bien, reçois cet homme, » dit-il à Lucien. Mais ne dis pas un seul mot compromettant, ne laisse pas échapper un geste d'étonnement. C'est l'ennemi.
Tu m'entendras, dit Lucien. Carlos se cacha dans une pièce contiguë, et par la fente de la porte, il vit entrer Corentin, qu'il ne reconnut qu'à la voix, tant ce grand homme inconnu possédait le don de transformation. En ce moment, Corentin ressemblait à un vieux chef de division aux finances. « Je n'ai pas l'honneur d'être connu de vous, monsieur, » dit Corentin, « mais... »«
Excusez-moi de vous interrompre, monsieur, » dit Lucien,
« mais... »«
Mais il s'agit de votre mariage avec Mademoiselle Clotilde de Grandlieu, qui ne se fera pas, » dit alors vivement Corentin.
Lucien s'assit et ne répondit rien.
« Vous êtes entre les mains d'un homme qui a le pouvoir, la volonté, la facilité de prouver au duc de Grandlieu que la terre de Rubempré sera payée avec le prix qu'un sot vous a donné de votre maîtresse, Mademoiselle Esther. On trouvera facilement les minutes des jugements en vertu desquelles Mademoiselle Esther a été poursuivie, et l'on a les moyens de faire parler d'Estourny. Les manœuvres extrêmement habiles employés contre le baron de Nucingen seront mises à jour. En ce moment, tout peut s'arranger. Donnez une somme de 100 000 francs et vous aurez la paix. Ceci ne me regarde en rien. Je suis le chargé d'affaires de ceux qui se livrent à ce chantage. Voilà tout. » Corentin aurait pu parler 1 heure. Lucien fumait sa cigarette d'un air parfaitement insouciant.
« Monsieur, répondit-il, je ne veux pas savoir qui vous êtes, car les gens qui se chargent de commissions semblables ne se nomment d'aucune manière, pour moi, du moins. Je vous ai laissé parler tranquillement, je suis chez moi. Vous ne me paraissez pas dénué de sens. Écoutez bien mon dilemme. »
Une pause se fit,
pendant laquelle Lucien opposa aux yeux de chat que Corentin dirigeait sur lui un regard couvert de glace. « Ou vous vous appuyez sur des faits entièrement faux, et je ne dois en prendre aucun souci, ou vous avez raison, et alors, en vous donnant 100 000 francs, je vous laisse le droit de me demander autant de 100 000 francs que votre mandataire pourra trouver de Saint-Estève à m'envoyer. Enfin, pour terminer d'un coup votre estimable négociation, sachez que moi, Lucien de Rubempré, je ne crains personne, attendu que je ne suis pour rien dans les tripotages dont vous me parlez. Que si la maison de Grandlieu fait la difficile, il y a d'autres jeunes personnes très nobles à épouser. Et qu'en somme, il n'y a pas d'affront pour moi à rester garçon, surtout en faisant, comme vous le croyez, la traite des blanches avec de pareils bénéfices. Si monsieur l'abbé Carlos Herrera... Monsieur, dit Lucien, en interrompant Corentin, l'abbé Carlos Herrera se trouve en ce moment sur la route d'Espagne. Il n'a rien à faire à mon mariage, ni rien à voir dans mes intérêts. Cet homme d'État a bien voulu m'aider pendant longtemps de ses conseils. Mais il a des comptes à rendre à Sa Majesté le roi d'Espagne. Si vous avez à causer avec lui, je vous engage à prendre le chemin de Madrid. « Monsieur, dit nettement Corentin, vous ne serez jamais le mari de mademoiselle Clotilde de Grandlieu. » « Tant pis pour elle, répondit Lucien en poussant vers la porte Corentin avec impatience. « Avez-vous bien réfléchi ? Dit froidement Corentin. « Monsieur, je ne vous reconnais ni le droit de vous mêler de ces affaires, ni celui de me faire perdre une cigarette, » dit Lucien en jetant sa cigarette éteinte. « Adieu, monsieur, » dit Corentin, « nous ne nous reverrons plus, mais il y aura certes un moment de votre vie où vous donnerez la moitié de votre fortune pour avoir eu l'idée de me rappeler sur l'escalier. » En réponse à cette menace, l'abbé fit le geste de couper une tête.